Autour de la table avec moi aujourd'hui, Minouche et nos invités du jour, Pascal Messina et Béatrice Korfmatt-Moulin pour les ateliers d'artistes fin novembre. Et tout de suite, direction Cholet avec Patrick Péloquet.
Franche culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Franche culture est une émission qui s'intéresse à l'actualité culturelle du Maine-et-Loire. Alors aujourd'hui, focus sur Cholet. On quitte Angers et sa forte, peut-être trop forte présence sur la scène départementale, direction le Choletais. J'accueille Patrick Péloquet, vice-président en charge de la culture du Choletais. Patrick Péloquet, bonjour.
Bonjour.
La culture dans le Choletais, c'est une vraie réalité. Vous venez d'ailleurs de le démontrer avec le Festival des Éclectiques, je crois.
Oui, le Festival des Éclectiques, c'est une manifestation qui nous est fidèle depuis plusieurs années maintenant, qui est une co-construction entre Chemillet, le Jardin de Verre et le Théâtre Saint-Louis. Et voilà, nous sommes très heureux chaque année de les retrouver. Effectivement, ça a donné lieu ce dernier week-end à un concert de Thiéphaine au Théâtre Saint-Louis, juste avant la nuit organisée à Chemillet. Et puis le dimanche, il y avait une sieste électronique dans les locaux du Jardin de Verre.
Quel programme! Eh bien écoutez, Cholet jouit dans le département d'une belle image de dynamisme et d'innovation sur le plan économique. Pensez-vous que la culture a sa place dans un projet sociétal comme celui de Cholet?
C'est très important. C'est très important dans le sens où, pour attirer des entreprises dans le Choletais, il faut être force de proposition. Alors d'abord sur le terrain industriel, bien évidemment, et commercial, mais aussi il faut qu'il y ait un contexte favorable à attirer des familles, c'est-à-dire avoir des propositions en termes d'équipements sportifs, en termes d'équipements culturels, et des propositions également dans le domaine de la culture, en termes d'outils de formation. Donc je pense que c'est le cas ici, j'en suis même certain, ici à Cholet aujourd'hui, où entre le conservatoire, les lieux de diffusion, la médiathèque, eh bien les familles et les enfants, ils trouvent... réponse à leurs envies.
Ouais. Cholet, c'est une ville d'avenir, mais je la sens quand même ancrée dans son histoire. Le musée d'art et d'histoire, on trouve des collections d'exception, en particulier une galerie d'art qui est tournée principalement sur les guerres de Vendée quand même.
Alors effectivement, il y a la partie, comme vous le soulignez, c'est le musée d'art et d'histoire. Donc la partie historique, elle est liée intimement aux guerres de Vendée qui ont marqué ce territoire de façon très forte. Et puis le parallèle à cette réalité historique, c'est la présence d'artistes contemporains. Je pense à Morellet notamment,
oui.
Au travers de l'installation du labyrinthe du Grave.
Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est le labyrinthe du Grave?
Alors le labyrinthe du Grave, c'est une installation conçu au départ par Morellet et puis un certain nombre de personnes qui l'entouraient. Qu'est-ce que c'est le GRA? D'abord, c'est le groupe de recherche autour des arts visuels, le GRAV. Et puis l'idée, c'est une démocratisation de l'art, c'est-à-dire de sortir d'une vision un peu élitiste de l'art en provoquant des rencontres au travers d'installations. Ou c'est le cas à Angers, par exemple, quand vous rentrez dans ce labyrinthe, qui est un lieu fermé, il est bien notifié à l'entrée qu'il est interdit de ne pas toucher. C'est-à-dire que les spectateurs sont invités à jouer avec les œuvres, à jouer avec la lumière, à jouer avec les matériaux. Et c'est une façon de rapprocher le spectateur de l'artiste. Et puis, et c'est une volonté aussi déclarée par les personnes du Grave, d'aller vers une forme de démocratisation de l'art.
C'est une œuvre qui date de 1965 qui est assez impressionnante. Il y a des vidéos tout à fait remarquables sur le site du musée qui nous permettent de réaliser ce que c'est que ce labyrinthe du Grave et qui nous donne envie d'aller s'y promener.
Vous parliez de Morellet, qui est donc un artiste contemporain angevin. Il participe à ce groupement.
Absolument, voilà. Absolument.
Il est exposé aussi à Angers.
Et puis, il a vécu longtemps sur Cholet. Et la ville a la chance de posséder beaucoup d'œuvres de Morellet, et notamment des œuvres qui sont exposées au musée.
Mais pour revenir à ce mix dans cette ville ancrée dans l'histoire et ville tournée vers l'avenir, j'aimerais bien que vous nous parliez du musée du textile, parce que je trouve que c'est un bel exemple et de choses anciennes, de culture ancienne et de modernité.
Oui, alors le musée du textile, d'abord le bâtiment lui-même, c'est une reconversion, puisque l'origine c'est un bâtiment industriel, et qui aujourd'hui accueille un musée. Alors ce musée, il y a la partie exposition qui est très variée d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi un musée de la mode,
oui,
à Cholet,
tout à fait.
Et que les élèves du musée de la mode bénéficient régulièrement du musée pour exposer des travaux. On accueille également pas mal d'artistes plasticiens qui travaillent sur le thème du textile. Et puis, bon, il y a une partie historique, bien évidemment,
oui,
qui est liée à l'histoire du textile à Cholet. Pas seulement le mouchoir.
J'allais vous le dire, voilà.
On y pensait tous.
Mais bien sûr, on parle toujours du mouchoir, mais bon, le mouchoir, c'est emblématique et c'est une réalité. Ceci dit, le mouchoir, aujourd'hui, est toujours tissé sur Cholet. Il y a une machine qui continue à tisser des mouchoirs à Cholet. Mais beaucoup plus largement, c'est un musée qui rend hommage aussi à tout ce qui a pu être la vie du textile et des entreprises textiles sur le territoire.
Et qui est vraiment tourné vers l'avenir, parce que j'avais pu voir, moi, des broderies réalisées en 3D. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de passionnant. Et ben voilà, c'est aussi à voir, je trouve, sur Cholet. Je vais m'intéresser à votre maison de la francophonie, parce que ça m'a un petit peu bluffé.
Oui, la maison de la francophonie, elle est issue d'une volonté de valoriser donc la langue française présente sur plusieurs continents au travers d'une autre manifestation qui est un carrefour le carrefour de l'orientation qui fait une proposition tous les deux ans aux élèves du département d'ailleurs et plus largement de la région une proposition qui consiste à interroger les élèves sur leur avenir. Voilà. Et puis, à l'intérieur de cette manifestation, il y a une partie qui est consacrée à la langue française. Alors, comment ça se concrétise aujourd'hui ? Ça se concrétise par une bibliothèque francophone, ça se concrétise par des concours d'éloquence, ça se concrétise aussi par des cours qui sont ouverts à toute génération, d'ailleurs, pas seulement aux élèves qui sont toujours en cours d'études, mais aussi à des personnes qui veulent se perfectionner dans le domaine de la grammaire ou dans le domaine de la langue française. Voilà, c'est une des branches de l'université d'Angers, de Cholet, qui est consacrée plus particulièrement à la langue française.
Est-ce que vous pensez que c'est un outil d'intégration ?
Bien sûr, bien sûr. Parce que vous faites bien de le souligner. Au-delà des actions que je viens d'énumérer, il y a aussi ce souhait de s'adresser à une population qui vient habiter Cholet et qui, voilà, pour laquelle la langue française reste encore un apprentissage à perfectionner.
Le théâtre régional des Pays de la Loire, je crois que vous connaissez bien, je crois que vous en avez eu la direction.
Pendant 30 ans.
Oh. Voilà, donc... Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il donne sur Cholet, ce théâtre régional ?
Alors, c'est une structure qui est accueillie. Le siège social donc, du théâtre régional est à Cholet. C'est un lieu qui regroupe une salle de spectacle de 600 places et également un atelier de décor et de costume qui est attenante à cette salle et puis des locaux pour abriter l'administration. Alors, cette structure... Théâtre régional des Pays de la Loire, elle a une mission sur le territoire du Choletais, une mission de décentralisation, de sensibilisation, de médiation en direction des élèves notamment, et puis plus largement, puisque cette structure est cofinancée à la fois par l'agglomération du Choletais, mais aussi par le département et la région, cette structure a vocation à créer des spectacles qui sont diffusés sur l'ensemble du territoire régional dans un premier temps, et plus largement... sur le territoire national. Voilà. Donc, effectivement, j'ai eu le plaisir de diriger cette structure pendant 30 ans. Et aujourd'hui, elle est dirigée par Camille de la Guillonnière, voilà, qui poursuit ce travail de décentralisation cet outil, à l'origine, avait été créé par Jean Guichard.
Bon, je vais passer sur le Théâtre Saint-Louis, parce que c'est un magnifique théâtre, esthétiquement, c'est un très beau bâtiment.
Oui.
Et 850 places, je pense qu'il y a une belle programmation, peut-être vous allez me dire, oui, vous allez certainement me dire qu'elle est très belle. Et je peux inviter nos auditeurs à aller faire les visites virtuelles qui m'ont vraiment beaucoup amusée, c'est assez génial. Vous pouvez rentrer dans toutes les parties du théâtre, j'ai trouvé ça vraiment innovant et agréable pour le découvrir. Et puis la programmation, je laisse chacun libre d'aller explorer ce qui s'y fait. Moi, je vais vous attaquer un petit peu, là.
Oui, allez-y.
Parce que j'ai été très gentille jusqu'à présent. Il y a un petit bémol dans le panorama de Cholet, c'est qu'il n'y a pas de scène nationale. Vous êtes la 10e ville de la région, hein, en grandeur. Mmh. Et il y a des villes plus petites qui ont des scènes nationales et vous n'avez pas. Pourquoi ?
Alors, qu'est-ce que vous appelez scène nationale ? Une labellisation ?
Oui.
Parce qu'il n'y a pas de scène nationale sur le département du Maine-et-Loire, plus généralement.
D'accord.
Il y a un centre dramatique national, en l'occurrence le Quai, ici à Angers. Il y a des scènes de musiques actuelles qui sont labellisées, mais il n'y a pas de scène nationale sur le département du Maine-et-Loire. La labellisation ne se décrète pas. Hein, c'est un label qui vous est proposé par l'État qui induit un certain nombre d'obligations derrière, c'est-à-dire une attention particulière à la création contemporaine. Enfin, il y a un certain nombre de
contraintes.
Appelons ça des contraintes, mais pas forcément des contraintes. D'ailleurs, ça doit correspondre à une réalité, notamment de programmation. Alors, cette labellisation, en l'occurrence, nous ne l'avons pas demandée, elle ne nous a pas été proposée, mais je dois dire que ce qui est important, c'est d'avoir un rapport dans la labellisation scène nationale ou théâtre national ou peu importe. Moi, ce qui m'importe et ce qui importe surtout au public, c'est le mot théâtre ou le mot scène, c'est-à-dire que la politique culturelle que je conduis, que nous conduisons avec tous les acteurs culturels du territoire, consiste à travailler sur une diversité de propositions et une proximité entre les spectateurs et les artistes. Voilà, peu importe la labellisation derrière.
Ok. Est-ce que c'est compliqué de cohabiter avec Angers, d'avoir une plus grosse métropole à côté de soi ?
Alors, je dirais, nous sommes équidistants d'Angers, de Nantes et de La Roche-sur-Yon. Donc ça nous donne une position singulière, une position, on peut dire centrale aussi, hein, sans être prétentieux, mais en tous les cas une position centrale. Et puis on mène beaucoup de projets en collaboration avec Angers, puisque nous sommes aujourd'hui ici à Angers. Dans le domaine des arts plastiques, on mène des collaborations. Vous faisiez allusion aux éclectiques tout à l'heure. On mène aussi des collaborations avec les éclectiques. J'étais encore ce matin avec les services du département pour voir un peu comment projeter la politique culturelle de l'agglomération de Cholet sur Angers et sur le département. Donc il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a pas de concurrence. Le festival d'Anjou, par exemple, qui est un outil fort de la politique culturelle d'Angers et du département, est présent à Cholet. Nous sommes partenaires du festival. Le festival Premier Plan décentralise aussi dans le Choletais. Oui. Donc voilà, il y a une réalité qui fait que nous sommes constamment en relation avec les structures culturelles d'Angers.
Donc tout se passe bien.
Tout se passe bien dans le meilleur des mondes.
Pour terminer notre entretien, Patrick Péloquet, puisqu'après je vais recevoir deux artistes plasticiennes sur ce plateau, je voudrais savoir quelle place vous accordez aux plasticiens en 2023 à Cholet.
Alors l'actualité est justement dans le domaine des arts plastiques, elle est riche dans le sens où nous allons accueillir à partir du 26 novembre exactement 38 artistes plasticiens issus du territoire et plus largement du territoire national, qui ont participé à un premier dispositif qui s'appelait In Situ, qui consistait à de la part de chaque artiste plasticien, à présenter une œuvre dans un établissement scolaire. Et nous allons réunir à partir du 26 novembre 38 de ces artistes, 38 de ces œuvres au Musée d'art et d'histoire de Cholet. Donc, au travers de cette exposition, au travers de notre école d'art, qui accueille beaucoup d'artistes plasticiens en résidence, en partenariat d'ailleurs avec l'École des Beaux-Arts d'Angers. Voilà encore un partenariat entre Angers et Cholet. Eh bien, les arts plastiques ont une place importante. Et je terminerai juste par dire que nous avons été la première ville de la région à créer des classes à horaires aménagés arts plastiques. Voilà, c'est une première. Nous sommes innovants dans ce domaine.
Eh bien, écoutez, Patrick Péloquet, merci beaucoup pour ce tour d'horizon de la culture du Choletais.
Merci à vous.
On est toujours sur Radio Campus.
Surrounds us all. We lose control of everything and everyone. Oh, the heat is on. Bang on time through ups and downs. We fail to mind. Cold water from the eyes. Who's left to pay the price? We dance to the rhythm of an ancient track. It's a bad, bad place to be at.
I don't wanna be rude to you. Reality's coming soon. I don't wanna be rude to you. Reality's coming soon. Reality's coming soon. You're gonna love a big kaboom.
Someone put a big dollar sign on Sunset Strip.
Avec The Big Kadoum. C'est une nouvelle formation, 5 musiciens issus de la scène rennaise, comme vous l'entendez, un son pop, joyeux, un peu mélancolique. Ils seront en concert le 17 novembre au Shabada, en avant-première du festival Transmusical. On est toujours sur Radio Campus avec Franche Culture et Minouche nous fait découvrir des ateliers d'artistes.
Le temps d'un week-end, les samedis 26 et dimanche 27 novembre, 20 ateliers d'artistes ouvrent leurs portes et nous invitent à découvrir 33 artistes plasticiens qui exposent leurs œuvres récentes. C'est avec plaisir que j'accueille deux d'entre elles, Pascal Messina, artiste peintre et graveur, et Béatrice Korfmatt-Moulin, qui travaille les collages, le textile, les volumes. Mesdames, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Pascal Messina, pouvez-vous nous expliquer le principe de ces ouvertures ?
Alors, c'est la 25e fois que les ateliers d'artistes angevins et de l'agglomération angevine ouvrent leurs portes au public. Alors, ça a beau être la 25e fois, ça reste une manifestation vivante et novatrice, puisqu'on accueille régulièrement des nouveaux artistes dans notre association. Et on fait entrer le public dans l'intimité de nos ateliers. Donc c'est déjà assez particulier, parce qu'en général, on n'aime pas du tout faire entrer le public chez nous.
Est-ce que c'est une démarche compliquée, ça, d'ouvrir son atelier ? C'est très impudique pour vous ?
Pas impudique, mais déjà, ça demande de ranger, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc il faut pouvoir un petit peu expliquer aux gens ce qu'on fait. En général, ils sont très intéressés. Et surtout, en fait, il ne faut pas être en train... Je pense que le public aimerait nous voir en train de travailler. Mais ça, ce n'est pas possible. D'abord, parce qu'on a besoin de concentration. Et on ne peut pas leur répondre... répondre à leurs questions tout en faisant de la peinture ou de la gravure. Ça, je sais que c'est le rêve de tout le monde, mais ça, c'est pas possible. Donc, on les fait entrer dans nos ateliers, on leur montre nos lieux de travail qui sont souvent cachés et on leur explique tout ce qu'on fait. Ils posent de nombreuses questions.
Béatrice Korfmatt-Moulin, quelle sorte d'art on va découvrir dans ces ateliers ?
Alors, nous sommes une association d'artistes qui opère dans des domaines artistiques très très variés. Alors, on retrouve bien sûr les domaines classiques des beaux-arts, peinture, sculpture, gravure, mais on a aussi des installateurs, des gens qui font de la photo numérique, de la photo argentique. On a des artistes qui travaillent le textile. Et puis, je pense que tous les domaines artistiques sont couverts. On a aussi des illustrateurs. On n'a pas de designer parce que c'est vraiment une asso art visuel, art plastique.
Les artistes qui sont présents, est-ce que ce sont des professionnels ?
Ce sont des professionnels qui ont des formations artistiques pour la plupart et puis qui sont dans le milieu artistique depuis fort longtemps.
Il faut être coopté pour entrer dans votre association ?
Alors, ça se fait sous forme d'un questionnaire que les demandeurs remplissent. Et ensuite, comme nous fonctionnons collectivement, les dossiers de demandeurs sont vus en réunion. Donc, on est une trentaine chaque fois. Et puis, on prend une décision. Mais auparavant, l'atelier ou la personne qui est demandeuse a été vue par les membres du bureau où maintenant on est sous forme de collégiale. On visite avant et ensuite on propose. Et puis ça se décide là, lors des réunions en collégiale.
Pascal Messina, parlez-nous de l'exposition de la Chapelle Saint-Lazare, parce que je crois que ça va être un grand morceau de l'ouverture des ateliers d'artistes.
Oui, alors ça fait plusieurs années qu'on voulait, on voulait proposer au public de voir l'ensemble des artistes avant de se diriger vers l'un ou l'autre atelier, parce que finalement, 20 ateliers dispatchés un petit peu dans Angers et tout autour, en un week-end, c'est pas possible. Donc, au début, on était dans une petite galerie qui était rue Kellermann, qui s'appelait Les Îles Lointaines, et on avait demandé à tous proposer une œuvre. Comme ça, le public entrait, regardait un petit peu tous les artistes présents, et après décider d'aller dans tel atelier plutôt que tel autre. Et puis, cette petite galerie a fermé, donc elle a dû fonctionner 2 ou 3 ans, et on a demandé à la mairie de nous trouver un lieu, justement, pour réunir tous les artistes. Et cette année, pour la première fois, on nous a proposé la Chapelle Saint-Lazare. Donc ça va être, si vous voulez, le rendez-vous de nous tous, avec une œuvre. On a droit à 1 mètre linéaire par artiste.
Est-ce que c'est compliqué pour certains d'avoir 1 mètre linéaire ?
Oui, je pense. Et puis il y en a toujours qui veulent montrer plus de choses que prévu. Donc c'est un peu une contrainte, mais au moins on proposera une vision d'ensemble. Et ça pour nous c'est important, parce que ça donne envie aux gens d'aller plutôt vers la peinture ou vers la sculpture, vers le textile, selon ce qu'ils attendent de voir.
Pour nos auditeurs, la chapelle Saint-Lazare se situe 68 rue Saint-Lazare,
c'est ça.
À Angers.
À côté de la place Bichon.
Place Bichon, voilà.
Exactement.
Et en fait, ce qui est d'intéressant, c'est qu'elle sera, l'exposition sera ouverte jusqu'au mercredi 1er décembre.
Oui, on a obtenu de la mairie de prolonger un petit peu le week-end sur quelques jours de la semaine qui suit.
Béatrice Korf-Matmoulin, est-ce que vous pensez que c'est utile d'aller voir dans cette chapelle Saint-Lazare l'ensemble des œuvres ?
Alors, moi, je pense que c'est bien utile et c'est aussi très intéressant d'aller voir la chapelle qui est quand même, on est côté d'Outres et on n'est pas dans le centre-ville. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'il y a une superbe chapelle qui a été complètement rénovée par la ville d'Angers et qui est offerte gracieusement aux artistes, rien que pour ce lieu qui est vraiment très beau vraiment, la rénovation est réussie. Et puis, bien sûr, ça permet d'avoir un aperçu très global sur l'ensemble de ce qui va se présenter dans les 20 ateliers avec les artistes invités.
Marie ?
Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, en tant qu'artiste, de voir les visiteurs venir, comme vous disiez tout à l'heure, Pascal, presque dans votre intimité de créateur ?
Ah ben nous, pour nous, c'est un peu angoissant, je dois vous dire.
On l'a senti.
Mais c'est très, très fructueux parce que, alors, Moi, il m'est arrivé des choses étonnantes, personnellement. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui, pour des communes avoisinantes, cherchaient à monter une exposition. Donc, elles visitaient des artistes incognito et puis elles repéraient les gens qui les intéressaient. Mais il y a aussi ce dialogue avec le public qui est très important parce que on travaille un petit peu dans notre coin, dans l'ombre, sauf quand on fait des expositions. Là, on se confronte au public. Mais tout d'un coup, on s'aperçoit que finalement, ça intéresse drôlement les gens. Ils ont envie de savoir.
Votre processus créatif intéresse les gens, le lieu.
Mais même le lieu, mais déjà le lieu, ils sont très curieux du lieu. Et puis la façon, on leur explique. Et puis ils découvrent un ensemble de... Souvent, chaque artiste n'a pas une seule façon de travailler. Donc ça, c'est important pour nous.
Béatrice Korfmatt-Moulin, vous présentez sur la plaquette des ateliers d'artistes avec collage, textile, volume. Est-ce que vous pouvez me parler de votre travail, nous parler de votre travail?
Alors, je fais un travail qui est lié à une passion que j'ai depuis fort longtemps pour l'archéologie. Donc j'ai mené une carrière en parallèle avec archéologie et art plastique, parce que j'y vois des ponts. Et récemment, je m'oriente vers des choses qui sont plus de nature textile, mais avec un goût prononcé, que tout le monde voit dans mon atelier, pour les matériaux pauvres, de récupération généralement, et puis avec des pigments colorés, naturels. Enfin, il y a une tonalité qui est liée à cette recherche, c'est visuel aussi, l'archéologie.
Et vous, Pascal Messina, parlez-nous de votre travail. Là, vous allez nous montrer quoi cette année?
Alors moi, j'ai deux domaines d'exploration, on va dire. C'est la peinture et la gravure. Donc, je suis, selon les années, en pleine couleur. J'aime beaucoup les couleurs. Alors qu'il y avait certaines années, j'étais plutôt dans les tons de bleu, doux, blanc, noir même. Je pense que la vie qu'on a, notre vie personnelle, influence énormément notre travail. Et ça, c'est quelqu'un justement, un visiteur qui me l'a dit un jour, qui m'a dit « Ah, on retrouve vos couleurs » parce que l'année dernière, c'était très sombre. Donc voilà, ça prouve aussi que finalement, le public nous aide à y voir aussi clair un petit peu dans notre travail et ça, je trouve ça formidable.
Bah écoutez, c'est encourageant parce que si cette année vous êtes dans la couleur, on peut penser que vous êtes en pleine forme, Pascal Messina. Donc c'est vraiment très joyeux. Bah écoutez, merci beaucoup et puis on vous souhaite de belles ouvertures d'ateliers.
Merci à vous.
Merci,
merci. Merci pour cette présentation des visites d'ateliers d'artistes qui auront lieu les 26 et 27 novembre. Vous retrouverez tous les renseignements sur le site atelier-artiste.angers.com. C'est... C'est la fin de ce Franche Culture. 30 minutes de culture, tous azimuts en Anjou. Merci à vous, chers auditeurs de Radio Campus, pour votre écoute. Retrouvez-nous pour la rediffusion de l'émission dimanche prochain à 11h30 et le mercredi en direct à 17h. Surtout, si vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à partager notre podcast et à nous liker sur les réseaux sociaux.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.